Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir rejoint ce Radio Mouquette dédié à l'intelligence émotionnelle du manager. Alors je me présente, je m'appelle Christophe Hague, je suis enseignant-chercheur à l'EM Lyon, et je suis spécialiste des mécanismes intuitifs et émotionnellement intelligents chez le manager. Pour mieux comprendre ces mécanismes intuitifs et émotionnels, eh bien je travaille avec des populations atypiques, comme par exemple des astronautes, des réalisateurs de cinéma à Hollywood, des membres du RAID, des survivants d'expéditions en haute altitude qui ont mal tourné, qui ont été prisonniers dans la zone de la mort. Je travaille également avec des individus issus du monde business, comme des patrons de PME, du CAC 40, des managers, des middle managers, sur qui j'effectue tout un tas de tests et d'expérimentations que je publie ensuite sous format article académique ou livre de vulgarisation. Les présentations étant faites, laissez-moi vous dire une chose. Le XXe siècle a vécu sous la terreur du QI, guillotine des talents exubérants, fossoyeur des hors-normes, des hors-séries, des hors-politiquement corrects. Je suis intimement convaincu que le XXIe siècle sera celui du QE, QE pour quotient émotionnel. Une simple lettre qui change la donne du management, renverse les idées reçues, bouleverse les règles de sélection, téléporte le déjà-vu, dynamite le déjà-dit et explose le déjà-fait. Les études nous glacent toujours parce qu'elles n'ont pas de visage. On les sent impersonnelles parce qu'ayant écouté trop de voix, brassant trop de pensées. Ce n'est pas le cas de toutes celles que vous découvrirez dans ce MOOC. Gardez une chose en tête. Le QI, c'est se mettre au-dessus des autres. Le QE, c'est se mettre au même niveau que les autres, comprendre leurs besoins et leurs attentes. Le QE mesure des atouts que le QI ne mesure pas, des atouts nécessaires à la bonne marche d'une entreprise. Le QE, c'est une vraie intelligence adaptative. Elle nous permet de gagner en agilité dans ce monde de plus en plus incertain où l'on évolue sur des socles mouvants, avec des timings serrés et des zones d'incertitude extrêmement larges. Ils sont de plus en plus nombreux, les gens d'entreprise, à faire leur coming out de leur côté QE. Prenez par exemple Jean-Pierre Mustier, l'ancien grand patron des activités de marché de la Société Générale et accessoirement l'ancien patron de Jérôme Kerviel. Voilà ce qu'il disait dans la presse il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous rationalisez tout, vous avez peut-être tendance à manquer ce que vous devriez faire. Je me rends compte maintenant que quand vous êtes excessivement sous pression, il est important de laisser vos émotions prendre le pas de temps en temps sur votre approche rationnelle des choses. Utilisez son bon sens, écoutez son intuition plutôt que les résultats sophistiqués d'un modèle. Développer une culture d'entreprise qui s'appuie sur des principes fondamentaux simples. Sacré mea culpa. Sachez qu'on vous embauche sur votre caution intellectuelle, mais c'est votre caution émotionnelle qui fait votre carrière. Quels sont les grands objectifs de ce MOOC? Tout d'abord, réhabiliter la pensée spinozienne, qui ne cherche pas absolument à séparer, à hacher, à digotomiser le corps et l'esprit. Autre objectif de ce MOOC, eh bien, tenter par la prévention de réduire de manière significative le nombre de sales cons qui pullulent dans bon nombre d'entreprises. Ce terme, je ne l'utilise pas juste pour être provocateur. En fait, la sale connerie a été conceptualisée par un célèbre chercheur de l'université de Stanford, qui s'appelle Robert Sutton, d'ailleurs, qui en a fait un livre. Qu'est-ce que le sale con? Le sale con est un être, ladre, asocial, qui, par ses comportements émotionnels, est capable de pourrir la vie des gens autour de lui. Et je suis persuadé qu'en ayant une pleine conscience de ce que représentent les émotions, leur impact sur nous, sur les autres, dans la vie de tous les jours, au travail, eh bien en ayant cette pleine conscience-là, on réduit de manière significative son propre niveau de sale connerie. Et concrètement, à travers ce MOOC, vous allez comprendre ce qu'est l'intelligence émotionnelle, comment elle fonctionne et en quoi elle peut être utile pour le manager dans sa pratique quotidienne, dans ses prises de décision, dans sa manière de communiquer, notamment en période de crise, et dans sa gestion des équipes et des conflits au sein de ses équipes. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle d'intelligence et d'émotion, ce qui peut paraître paradoxal, le mariage de deux termes que tout oppose. Nous verrons dans ce MOOC que ces deux termes-là peuvent pourtant bel et bien s'aimer, et que ce mariage n'est absolument pas un mariage forcé. Alors commençons aujourd'hui par nous intéresser aux émotions. Alors, les émotions, elles sont présentes dans notre quotidien. Le simple fait de ne pas trouver une place de parking le matin qui peut générer de l'agacement, se transformant plus tard dans la journée en colère. Les JT qui sont pourvoyeurs d'émotions. Nos amours, nos emmerdes, nos tracas, nos folies, nos coups de cœur, nos coups de gueule. Chaque interaction avec autrui est un terreau fertile à l'éclosion d'émotions. Les publicitaires, connectés à leur temps et aux mœurs de leur temps, s'en donnent à cœur joie. La joie défie les lois de la finance pour BMW. Nous ne construisons pas des voitures, nous sommes créateurs d'émotions. Peugeot, Motion and Emotion. Lind, la passion de la finesse. Bref, l'émotion est omniprésente dans notre société. D'ailleurs, dis-moi ce que tu postes sur Facebook et je te dirai si tu es émotionnellement stable. Une étude récente a montré que les individus les plus émotionnellement instables sont les plus actifs sur Facebook. Ce sont eux qui postent le plus. Ce sont également eux qui ont une utilisation excessive de la ponctuation, des quadruples points d'exclamation par exemple, principalement pour traduire la colère, l'excitation, la tristesse ou la joie. Le 21e siècle est celui de l'émotion, je le disais tout à l'heure. À nous de savoir décrypter le Da Vinci Code de l'émotion pour être en phase avec notre société et ne pas être totalement largué. Commençons donc par définir ce qu'est l'émotion. L'émotion est un état affectif assez complexe qui se caractérise par une durée qui est plutôt limitée dans le temps, difficile d'imaginer d'être surpris pendant 3 mois, par une intensité ou un niveau d'énergie, d'activation. L'émotion peut s'exprimer par le verbe « je suis en colère, je suis triste, je suis surpris », par des paramètres acoustiques, autrement dit par la voix et des intonations « je suis en colère, je suis triste, je suis surpris ». Elle s'exprime également par des traits du visage, par la gestuelle, par des mouvements du corps. L'émotion est quasi toujours accompagnée de manifestations physiques, physiologiques, tremblements, rougeurs, palpitations, sudations. L'émotion se caractérise également par une dimension cognitive. En effet, elle intervient dans nos processus de mémorisation, d'apprentissage, de perception de ce qui se passe dans l'environnement, mais également dans nos processus de prise de décision. Considérez l'émotion comme une information utile. L'émotion, c'est un indice. C'est un peu comme Huggy les bons tuyaux dans Starsky Hutch. Elle nous prévient de ce qui se passe dans notre environnement, ce qui peut potentiellement impacter notre bien-être. En fait, l'émotion, elle a un rôle fonctionnel. C'est un peu comme ces panneaux signalétiques que l'on retrouve sur les routes, comme par exemple un panneau signalant un virage dangereux dans quelques mètres et nous invitant à décélérer. Ou au contraire, un panneau de fin de limitation qui nous dit « là, maintenant, tu peux booster, tu peux appuyer sur le champignon et y aller ». Souvent, l'on confond l'émotion avec d'autres états affectifs proches, voisins, comme l'humeur par exemple. Voyons ce qui distingue ces deux états. Il y a déjà la vitesse de déclenchement, qui est rapide pour les émotions et lente pour l'humeur. L'intensité, plutôt forte pour les émotions, plutôt faible pour l'humeur. La durée, plutôt courte pour l'émotion, on parle de quelques secondes, de quelques minutes, et un peu plus longue pour l'humeur, quelques heures, voire quelques jours. L'émotion est capable de rediriger notre attention vers quelque chose qui est important pour notre bien-être. L'humeur, plus diffuse, moins intense, n'a pas cette force-là. En règle générale, nous sommes capables de détecter la cause d'une émotion qui naît en nous. Beaucoup plus difficile de savoir souvent pourquoi nous sommes de mauvaise ou de bonne humeur. Les émotions permettent l'action, les humeurs non. En règle générale, chaque émotion est accompagnée d'une composante physiologique, ce qui n'est pas le cas de l'humeur. Et puis enfin, en règle générale, les émotions sont au sujet de quelque chose. J'ai peur de, je suis fâché contre. Cette spécificité-là, d'être à propos de quelque chose, est absente de l'humeur. Bref, revenons-en aux émotions à proprement parler. Dans les années 60, Paul Ekman, un anthropologue américain, s'est rendu dans une tribu retranchée de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il observa, contre toute attente, des similitudes entre la signification des expressions faciales des aborigènes et les siennes. il en déduisit qu'il existait un dénominateur commun à tous les peuples, que l'on s'est employé depuis à répertorier. On sait désormais que l'être humain, sous quelque latitude que ce soit, a en commun six émotions de base que sont la joie, la peur, la tristesse, le dégoût, la colère et la surprise. Des émotions qui s'expriment pareillement d'un peuple à l'autre sur le visage. Dans les années 90, Ekman a élargi sa liste d'émotions de base à 15 émotions, dont un plus large éventail d'émotions positives. Certaines de ces nouvelles émotions ne correspondent pas à une expression du visage. Ces nouvelles émotions sont l'amusement, le mépris, la satisfaction, la gêne, l'excitation, la culpabilité, la fierté dans la réussite, le soulagement et le plaisir sensoriel qui s'acquiert de la conception aux premières années de la vie. Des chercheurs finlandais qui ont mené une étude sur plus de 700 personnes ont montré que ces émotions universelles, ces émotions de base, eh bien, sont ressenties physiquement de la même façon par tous, quelle que soit la culture d'origine de l'individu. Prenez par exemple la colère, la peur ou la surprise. Ces émotions sont associées à une augmentation de l'activité au niveau de la poitrine, caractérisant vraisemblablement une accélération des rythmes respiratoires ou cardiaques. La tristesse, quant à elle, se distingue par un affaiblissement de l'activité des membres supérieurs. Et notez que les sensations gastro-intestinales et de la gorge sont propres au dégoût. Cette histoire d'universalité que nous comptent Paul Ekman et d'autres chercheurs est belle sur le papier. Mais elle n'est pas tout à fait exacte. Notez par exemple qu'une étude a révélé que les Asiatiques ont plus de mal que les Européens à faire la différence entre la peur et la surprise, ainsi qu'entre le dégoût et la colère. La raison ? Ils ont tendance à fixer du regard le haut du visage, soit les yeux, et beaucoup moins la bouche, ce qui les prive d'une information précieuse pour trancher. Chez les Inuits, la colère est absente. Non seulement ils ne l'expriment pas, mais ils ne disposent d'aucun terme pour la nommer. Les Ifaluk, un peuple localisé dans un atoll du Pacifique, ne ressentent pas notre colère, mais quelque chose qu'ils appellent « song », un sentiment de dignité offensé par une infraction morale, comme par exemple la transgression d'un tabou, d'un acte provoquant. Les Ilonggo, dans les Philippines, décrivent quant à eux une forme de colère appelée « ligay », qui est différente de la nôtre car elle est connotée positivement et n'est pas déclenchée par les mêmes facteurs. Enfin, notez qu'au Japon, « amae » est un mot pour décrire un sentiment plaisant d'attachement ou de dépendance, absent en Occident, une émotion correspondant au fait de dépendre de l'amour d'un autre, de se livrer à la douceur de l'autre ou de se réchauffer. Vous l'aurez compris, la culture joue un rôle essentiel dans le ressenti et l'expression de nos émotions. Un livre, La géopolitique de l'émotion, a même tenté de cartographier les émotions dominantes à travers le monde. Conclusion, aujourd'hui, il y aurait plus d'espoir et de confiance en soi en Asie. Cela se comprend avec le dynamisme économique qui accompagne par exemple la Chine. Un sentiment d'humiliation dans le monde arabo-musulman. Et en Occident, c'est la peur qui domine. Une peur grandissante et intimement liée au sentiment d'insécurité économique, avec la crise que l'on a connue, mais également d'insécurité physique, avec les attentats qui ravagent nos pays. Parlons aussi de la différence en termes d'expression émotionnelle entre les hommes et les femmes. Il y a une explication biologique. Jusqu'à l'âge de 12 ans, les petits garçons et les petites filles sécrètent à peu près le même taux de prolactine, qui est une hormone sécrétée par l'hypophyse. Après 12 ans, les jeunes filles sécrètent plus de prolactine que les garçons, et donc elles ont besoin d'évacuer ce surplus. Comment ? Eh bien tout simplement en exprimant leurs émotions, comme par exemple en pleurant, en réaction à un épisode triste de sa vie. L'autre explication de la différence d'expressivité émotionnelle entre l'homme et la femme est plus sociologique. Longtemps, l'homme, dans l'imaginaire partagé, n'a pas été autorisé à exprimer publiquement ses émotions perçues comme des faiblesses. Lui qui guerroie, lui qui coupe du bois, lui qui est responsable de la famille. Mais avec la féminisation de la société, la donne change et les émotions exprimées publiquement par les hommes sont plus facilement acceptées. Donc pour conclure cette première session, retenez que les émotions sont fonctionnelles, elles sont utiles, elles représentent de réelles informations. Nous allons, dans la session suivante, nous intéresser à la place des émotions dans l'entreprise. Merci de m'avoir écouté.